Radio Kapi.
Des informations avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les déplacés de Kouamout accueillis dans la province du Kwilu, du Kwango et dans d'autres coins de la province du Maïndombé vont enfin bénéficier de l'appui humanitaire du gouvernement de la République. C'est ce qui explique l'arrivée hier mercredi à Bandundu, chef-lieu du Kwilu, d'une délégation d'au moins 5 ministres, en majorité fils du grand Bandundu. Quelle stratégie d'attractivité pour les pays africains ? C'est le thème de la 8e édition du Rebranding Africa Forum qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles, en Belgique. Un forum économique organisé depuis 2014 avec plusieurs orateurs de haut niveau. L'invité de ce journal est le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. Justin Bendesana appelle la population à s'approprier le programme de développement des 145 territoires en vue notamment de réduire la pauvreté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les déplacés de Kouamout accueillis dans la province du Kwilu, du Kwango et dans d'autres coins de la province du Maïndombé, vivant dans des conditions inhumaines, vont enfin bénéficier de l'appui humanitaire du gouvernement central. Cela grâce à l'arrivée hier mercredi à Bandundu, chef-lieu du Kwilu, d'une délégation d'au moins 5 ministres, en majorité fils du grand Bandundu. Didier Mazenga, chef de la délégation, indique que cette mission humanitaire est effectuée sur instruction du président de la République. Irène Boma pour le reportage.
Parmi les membres du gouvernement central qui ont effectué ce déplacement de Bandundu dans l'après-midi de mercredi, figurent le ministre de l'intégration régionale, celui des affaires sociales et actions humanitaires, le ministre du numérique, la ministre près le président de la République, ainsi que la vice-ministre de la Défense. Ils sont accompagnés de la gouverneure de la province du Maïndombé et de deux députés nationaux. C'est confiant à la presse dès leur descente de l'avion, Didier Mazenga, ministre national de l'intégration régionale, et chef de la délégation a déclaré qu'ils sont venus pour apporter l'assistance du gouvernement central aux déplacés de Kouamout se trouvant dans cette ville.
Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a donné des instructions claires à son gouvernement, notamment au Premier ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions venir ici à Bandundu pour appuyer, assister nos frères et sœurs déplacés maintenant sinistrés de la guerre d'agression de Kouamout.
Notez qu'après Bandundu, la délégation gouvernementale va se rendre partout où se trouvent ces déplacés pour les assister, notamment au territoire de Bagata dans le Kwilu, dans la province du Kwango et également au Maïndombé, a indiqué Didier Mazenga. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Kwilu, la société civile de la ville de Kikwit et celle de la ville de Bandundu haussent le ton pour décrire la situation sécuritaire déplorable ces derniers temps dans l'espace Grand Bandundu. Situation relative à la crise Tekeaka qui s'étend au Kwilu, au Kwango. Dans une déclaration ce jeudi à la presse, cette structure fait plusieurs recommandations, notamment au gouvernement congolais, aux services judiciaires et aux communautés de cet espace, afin de mettre fin à cette crise sécuritaire. Écoutez un extrait de cette déclaration lue par Laurent Bouenia, président de la société civile de Kikwit, dans ses propos sélectionnés par Irène Boma.
Les sociétés civiles de Kikwit et de Bandundu, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut encore dans le Grand Bandundu, déclarent ce qui suit. La non-prise en compte de la fameuse crise Yakateke à temps est à la base de la crise grandissante qui s'étend de Kouamoutou vers les provinces. La théorie « avec plaisir de voir le sang » n'est pas la culture du Grand Bandundu. Que la main noire à la base de cette crise soit identifiée et mise hors d'état de nuire. Que tout celui arrêté comme auteur ou co-auteur de tuerie soit jugé devant son juge naturel dans un procès public afin de permettre à connaître les tenants et les aboutissants de cette étrange crise. Que les groupements et les tribus du Grand Bandundu, réputés jadis paisibles, ne se laissent pas manipuler pour s'opposer entre eux. Que l'État réglemente les redevances coutumières pour que ça ne serve plus de prétexte.
En bref, à Goba, au moins 13 armes récupérées avec un lot important de munitions détenues illégalement et 24 personnes interpellées, dont 20 civils et 4 militaires en situation irrégulière. C'est le bilan du bouclage mixte FARDC et PNC la nuit de mercredi à ce jeudi au quartier Keshiro, à l'ouest de la ville. Selon le commissaire provincial adjoint chargé des opérations et renseignements au Nord Kivu et qui a conduit cette mission, l'opération est une réponse aux nombreux cas de criminalité enregistrés dans cette entité. Le commissaire supérieur principal, Congolo Christian, indique que l'enquête se poursuit pour le cas de ces quartiers qui, selon plusieurs alertes, hébergent plusieurs personnes non identifiées. Nord Kivu encore, au moins sept civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF la nuit de mercredi à ce jeudi à Maboya, une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. Selon des témoins sur place et la société civile locale qui parle d'un bilan provisoire jusque-là, des dégâts matériels importants ont été enregistrés, notamment l'incendie d'un centre de santé de référence de la place. L'armée déclare avoir déployé les soldats pour poursuivre l'ennemi. À Ituri, un convoi de véhicules escorté par les FARDC a été attaqué hier mercredi par les rebelles ADF dans le village de Kabrik, sur le tronçon Komanda Luna dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état d'une personne tuée et de plusieurs autres blessés et de plusieurs en otage par ces rebelles qui ont par ailleurs incendié des véhicules contenant des marchandises. L'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, alerte les services de sécurité sur la présence des nouveaux bastions de l'ennemi qui proviendraient du territoire de Beni au Nord Kivu. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Ce convoi de plus de 50 véhicules civils, dont une vingtaine de camions transportant des marchandises et des voitures de transport en commun avec des centaines de passagers à bord, a quitté Komanda pour le Nord Kivu. Chemin faisant, un groupe de rebelles des ADF a ouvert le feu vers 14h vers le village de Kabrik, à environ 50 km de Komanda Centre. Selon des sources concordantes, le chauffeur d'un véhicule qui transportait des poissons salés en provenance de Kasenyi a été blessé par balle et est mort sur les champs. Ces hommes armés ont ensuite incendié deux véhicules. Certains passagers, dont le nombre n'est pas encore déterminé, ont été pris en otage par ces rebelles qui les ont acheminés dans la forêt. L'intervention des FARDC qui escortaient ces véhicules a permis de limiter les dégâts, précise les mêmes sources. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, condamne cette attaque et demande à l'armée de poursuivre l'ennemi qui cherche à occuper ses anciens bastions à Madina, à Otomaber et à Banda Vilemba sur la route nationale numéro 4. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur de ces territoires à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Quelle stratégie d'attractivité pour les pays africains? C'est le thème de la 8e édition du Rebranding Africa Forum qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles, en Belgique. Ce forum économique, organisé depuis 2014, va réunir pour deux jours plusieurs orateurs de haut niveau, notamment des décideurs politiques africains et européens, des opérateurs économiques, patrons d'institutions bancaires internationales. Une session spéciale Invest in DRC sera également organisée. Y prendront part le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, ainsi que le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, Anthony Nkinzo. Écoutez les précisions de Paul René Etogo, directrice générale de Rebranding Africa Forum. Ses propos ont été recueillis par notre envoyé spécial à Bruxelles, Cynthia Bachizina Bizana.
Parler d'attractivité pour nous, c'est justement comment développer des stratégies qui visent non seulement à attirer des partenaires, mais pas seulement pour extraire et exporter les ressources du continent, mais pour les extraire, oui, mais aussi pour les transformer directement dans les pays africains avant l'utilisation ou l'exportation. C'est pourquoi nous avons évidemment invité le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku, qui lui ambitionne de révolutionner l'industrie minière congolaise en transformant les minerais localement, avec l'implémentation d'une usine de fabrication de batteries électriques grâce notamment au cobalt et au lithium congolais. Et on ne saurait parler de l'attractivité des pays africains sans mettre en avant le rôle des agences de promotion des investissements des pays qui ont un rôle clé à jouer dans ce processus. C'est pour cela que nous aurons aussi M. Anthony Kouzi, qui est le directeur général de l'ANAPI, mais nous aurons aussi les représentants des agences de promotion des investissements des autres pays africains comme la Côte d'Ivoire et l'Angola.
Sud Kivu, la Ligue des consommateurs des services au Congo, Kinshasa, s'est dit satisfaite des décrets signés très récemment par le Premier ministre congolais le 15 octobre dernier. Il s'agit de décrets suspendant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité et l'importation, ainsi que la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier, et ce pour une durée d'une année. Ce qui représente une opportunité pour les consommateurs de vulgariser ces décrets pour application aux opérateurs économiques. Janvier Makombe Kabaré, président Alikoski, nous en parle dans ses propos recueillis par Rachel Kessembangou.
C'est avec un certain degré de satisfaction que nous venons d'apprendre la signature de deux décrets par le Premier ministre du gouvernement congolais. Nous tous, nous sommes d'avis que le pays traverse des moments très difficiles présentement. Sur le plan économique et financier, les consommateurs ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Et vous savez que les consommateurs, lorsqu'il y a une certaine crise sur le plan économique et financier, ils en paient les prix les plus lourds. Et à travers les deux arrêtés en question, nous pensons qu'il s'agit là d'une opportunité pour les consommateurs de vulgariser ces messages partout, mais aussi les opérateurs économiques. Et nous insistons surtout pour que les ministères des tutelles et les ministères des finances puissent veiller à la stricte application des dispositions de ces deux décrets du Premier ministre. Nous allons tous vraiment la main dans la main veiller pour que les retombées de ces deux mesures-là puissent avoir quand même un impact positif sur le vécu quotidien du peuple congolais.
Le trafic est paralysé depuis plus d'une semaine sur l'axe Kalemie-Nyunzu-Manono dans la province du Tanganyika. Et pour cause, le bac Kiambi, qui facilite la traversée des camions, des marchandises et des minerais sur la rivière Louvois, est tombé en panne. Le point avec Pone Munanga.
Pour l'administrateur du territoire assistant de Manono, ce bac permet de relier la ville de Kalemie au territoire de Manono en passant par celui de Nyunzu. Gracien Kakuji précise qu'il n'existe aucune route de déviation à cet endroit. Il souligne que les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. Leurs camions chargés de différentes marchandises comme le maïs, le manioc, l'huile de palme et autres sont bloqués. Même situation pour des camions d'une entreprise chinoise qui transporte des minerais de Manono vers Kalemie. Cependant, l'administrateur du territoire assistant signale que des pirogues aident dans la traversée de certaines personnes et des motos. Contacté à ce sujet, le ministre provincial des infrastructures du Tanganyika, John Sea, confirme que le moteur du bac est tombé en panne. D'après lui, l'office des routes l'a informé qu'il y a nécessité de placer un autre moteur pour que le bac soit de nouveau opérationnel. Le ministre souligne l'importance de jeter un pont en cet endroit pour résoudre définitivement le problème. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
La coordinatrice nationale de l'Association des femmes pour le développement communautaire tire la sonnette d'alarme sur la situation de plusieurs enfants sortis des sites miniers dans les territoires de Kipushi, dans les Haut-Katanga. C'est avec les concours des bailleurs de fonds qu'ils avaient intégré les écoles publiques de la place. Mais seulement, ils sont rentrés dans les sites miniers parce que leurs parents ne sont pas en mesure de leur assurer une prise en charge alimentaire. Nenette Mwangé demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de voler au secours de ces enfants qui mettent leur vie en danger. Elle est au micro de Jean Gandou.
À son temps, nous avons identifié 2834 enfants qui travaillent dans 13 carrières artisanales dans le territoire de Kipushi. Et nous avons réussi de faire sortir 500 enfants que nous avons scolarisés l'année 2021 dans des écoles de l'État. Ce sont les enfants de 7 ans à 14 ans. Les autres qui avaient 16 ans, 17 ans, ce sont les 15 qu'on a amenés dans l'apprentissage des métiers. Cette année, il n'y a que 213 qui sont rentrés dans des écoles. Le reste des enfants sont toujours dans la cité et les autres sont déjà rentrés dans des carrières. Alors nous demandons maintenant aux bailleurs de fonds de nous venir en aide pour que nous puissions continuer avec la prise en charge éducationnelle de ces enfants qui ont toujours tendance de rentrer dans des carrières. La semaine passée, je suis parti voir les 213 qui sont maintenant actifs. C'est déjà 180. La plainte en est que lorsque les enfants rentrent à la maison, il n'y a pas à manger. Alors ils ont tendance de rentrer encore dans des carrières puisque là ils trouvent la facilité de creuser, de transporter, de faire le nettoyage, il peut manger avant même 12 heures.
Il s'est ouvert hier mercredi à Matadi la première réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Congo central. Cette réunion est sous la direction des animateurs principaux de ces deux institutions provinciales. Le gouverneur Guy Bandou, qui a lancé cette rencontre, a indiqué qu'il permettra aux acteurs de ces deux institutions de réfléchir sur les solutions aux questions sociopolitiques et économiques complexes qui nécessitent leur intervention. Nana Plurich Mambou.
Ces travaux interinstitutionnels dont l'ego a été donné par le gouverneur des provinces Guy Bandundungidi devant les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central Jean-Claude Mvemba réunissent autour d'une même table les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial ainsi que les experts des deux partis. Ensemble, ils réfléchissent sur plusieurs thématiques dont les dettes publiques provinciales, les indemnités des sorties et arriérées des appuis budgétaires, la décentralisation, le fonctionnement et la rétrocession des entités territoriales décentralisées, la sécurité routière et la révision du contrat de la société des péages du Congo. Ces deux parties traitent aussi la problématique de la collaboration et le respect des attributions entre les deux institutions en vue de prévenir toute guéguerre entre elles dans l'avenir. Dans son discours, Jean-Claude Mvemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a demandé au gouverneur de province de prendre un moratoire suspendant les ventes des terres sur toute l'étendue du Congo central pour éradiquer les conflits fonciers devenus monnaie courante au Congo central. Notons que ces assises, dont les dernières élèves de 15 ans passés à l'époque du gouverneur Mbatimbacha, a pour but d'instituer un cadre permanent de concertation pour pouvoir assurer la cohésion provinciale et de renforcer la collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré va prêter serment demain vendredi en tant que président de la transition après avoir été désigné comme tel à l'unanimité le 15 octobre dernier par des assises nationales rassemblant les forces vives de la nation. À 34 ans, il deviendra le second plus jeune président du pays des hommes intègres embourbé dans une guerre contre les organisations terroristes. Un nouveau palier a été franchi par Vladimir Poutine dans le conflit en Ukraine avec l'instauration de la loi martiale dans les zones occupées par la Russie. Le décret publié par Kremlin instaure également un régime spécial dans les régions russes frontalières de l'Ukraine qui permettra d'accroître les mesures de surveillance de la population ou de censure de l'information.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Justin Bendesana appelle la population congolaise à s'approprier le programme de développement des 145 territoires en vue notamment de réduire la pauvreté. Appel lancé mardi dernier à Kisangani lors d'une conférence qu'il a animée à ce sujet. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Justin Bendesana, bonjour. Quel message avez-vous voulu communiquer aux participants à votre conférence?
Le message que j'ai voulu faire passer, c'était appeler la population tchopolaise à s'approprier de ces projets. Car ces programmes, c'est leur projet. Nous avons tant décrié la pauvreté dans notre pays. Et le chef de l'État a mis en place ce projet qui sera implémenté par le gouvernement et dont la mise en œuvre effective au travers les agences d'exécution. C'est pour réduire la pauvreté au niveau de nos entités territoriales. Car comme vous le savez, il y a beaucoup disparité entre d'un côté les milieux urbains et les milieux ruraux. Et donc, l'objectif étant d'impulser le développement à la base, nous voulons donc, par cette communication, appeler toute l'élite à mobiliser, à sensibiliser les communautés locales pour qu'elles s'approprient, qu'elles réservent un bon accueil auprès d'elles, qu'elles s'impliquent au niveau de la mise en œuvre, mais aussi et surtout assurer la durabilité des réseaux.
Concrètement, quel comportement attendez-vous de la population?
Le premier comportement que j'attends de la population, c'est les contrôles citoyens.
En quoi consiste ce contrôle?
Les contrôles citoyens consistent à veiller sur l'exécution des travaux de manière responsable pour dénoncer tous les abus. C'est à insister auprès de la population pour qu'elle ne contribue pas à voler les équipements, les matériaux, mais par contre, qu'ils soient là comme les gendarmes de leur projet pour veiller à son bon déroulement. Que le jeune de ces territoires prête main forte à ces agences d'exécution, qu'il suive l'évolution des travaux, qu'il adopte une attitude citoyenne pour protéger.
Fait que parler jusque-là, il n'y a que le verbe. À quand le début effectif des travaux sur le terrain?
Les travaux ont déjà débuté. Il y avait tout un processus. Il fallait que les ingénieurs puissent passer, prendre le mesurage à travers tous les territoires, parce que vous devez construire un hôpital, mais il faut identifier les sites. Vous devez réhabiliter l'hôpital, il faut identifier le site. Vous devez réhabiliter les routes de desserte agricole, il faut les identifier avant que les travaux effectifs ne commencent. C'est déjà dans le processus de la mise en œuvre. Et à ce stade, sur les trois agences, il y a le PNUD, la CFF et le BCECO, eh bien, pour le 2, les activités ont déjà commencé et sur le terrain, mais aussi également pour le PNUD, les activités, le processus est en cours pour la mise en œuvre effective. Donc ce n'est plus en termes de simples verbes. À part ça, il y avait des appels d'offres qui devaient être faits pour recruter, n'est-ce pas, les agences locales qui allaient exécuter ces projets. Tout ce processus de sélection ont fait que, bon, apparemment, vous avez eu l'impression comme si les choses tardaient, mais les travaux ont effectivement commencé.
Et c'est pour combien de temps? Quelle est la durée, l'échéance pour l'exécution?
Je ne peux pas m'hasarder de donner un délai. Je ne suis pas agence d'exécution. Vous savez, la problématique de l'accessibilité dans nos territoires, c'est quand même un sérieux écueil. Mais ce qui est vrai, le travaux démarre, mais il faut que les citoyens ouvrent l'œil et le bon.
Est-ce que des dispositions ont été prises pour éviter des perturbations de la planification faite au départ?
À ce stade, la première phase va consister en la construction des infrastructures, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, les logements des staffs dirigeants au niveau du territoire. Donc on va step by step. Donc la première phase, c'est la construction des infrastructures sociaux économique de base. Donc, il n'y aura pas, à mon sens, à moins de mauvaise foi, mais les assignations sont claires.
Qu'en est-il du suivi de l'exécution des travaux? Avez-vous pris des stratégies à ce niveau?
Il y a l'inspection générale de la finance qui va se mêler en collaboration avec le BTC pour essayer de suivre. Le BTC regarde, conseille l'IGF sur le plan technique, l'IGF regarde sur le plan financier.
Merci, monsieur Bendessama.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était l'invité de ce journal, le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, Justin Bendessama, s'entretenait depuis Kisangani avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Élisée Tikota et supervisé par Ben Kabamba. Polydor Basunga était à la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.